Bonjour à tous, Carolina sur RLP pour le podcast Boss Ladies. C'est le podcast qui donne la parole aux femmes chefs d'entreprise, celles qui osent, qui créent, qui innovent et qui travaillent chaque jour pour faire bouger les lignes. À chaque épisode, nous mettons en lumière des parcours inspirants, des réussites, mais aussi des défis pour montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat au féminin. Boss Ladies, c'est un espace authentique, motivant et bienveillant pour toutes celles qui entreprennent ou rêvent d'entreprendre. Nous sommes avec Marie Rebol, fondatrice du centre de soins Irémia à Chancelade. Elle y pratique la sophrologie, l'hypnothérapie, la méthode PNL, qui est la programmation neurolinguistique en gestion du stress et des émotions. Marie, bonjour.
Bonjour Carolina.
Eh ben, merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ?
Oui, je pense qu'il est un petit peu atypique. Moi, j'étais prédisposée à être cavalière professionnelle. Ma vie a été toute tracée. Et puis, par une journée de janvier enneigée, il y a eu une chute de trop qui m'a brisé la colonne vertébrale.
D'accord.
Donc, ma carrière s'est arrêtée net et j'ai été propulsée dans un environnement que je ne connaissais pas, qui était un milieu hospitalier, puisque je suis restée sur un long séjour dans un hôpital adapté aux déficients de la colonne vertébrale. Et là, il y a eu des révélations, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec des gens qui étaient atteints de maladies dégénératives de la colonne vertébrale, donc qui allaient en mourir. J'étais avec des personnes qui avaient subi des accidents de la route, donc il y avait eu des amputations, bon, bref, des choses assez lourdes. Et je me rends compte que ces gens qui vivent maintenant avec moi, qui partagent le quotidien avec moi, bah, ils ont la banane, ils ont le moral. Donc moi, je me suis dit, mais Marie, t'as pas le droit de te plaindre. Et comment font ces gens, notamment ceux qui, dans quelques semaines, ne seront plus là. Et je leur ai posé la question. Je pense à un monsieur qui venait, qui faisait le tour de chaque chambre, tous les matins. Moi, j'étais alitée, je ne pouvais pas bouger. Et il venait me voir, il avait donc son fauteuil, il bougeait avec son menton. Et il souriait. Il avait toujours une large banane. Et au bout de quelques temps, je lui ai dit, comment tu fais, toi, tous les matins, pour être bien luné, pour faire le tour des gens et donner autant? Et il me dit, tu sais, Marie, moi, j'ai quelques semaines. Il me dit, au mieux, j'ai 2 mois. Alors il me dit, je pourrais pas tout faire ce que j'ai envie de faire, par contre je vais kiffer mes journées. Et là je me suis dit qu'il y a un bravo et qu'il y avait quelque chose derrière. Donc j'ai commencé à travailler sur moi. Donc je connaissais déjà la préparation mentale en étant cavalière, ça m'avait déjà beaucoup apporté. Et j'ai commencé à creuser sur d'autres méthodes.
Toi, quand t'as ce problème à la colonne vertébrale, ouais. Tu sais si tu vas t'en remettre ou pas du tout
dans la... Alors moi, ma colonne vertébrale s'est brisée. C'est-à-dire qu'il me manque une vertèbre. La D12 a été pulvérisée. Donc progressivement, j'ai perdu mes jambes en quelques jours. Et puis on ne savait pas trop, et puis les médecins ne mettaient pas trop de mots. Moi, je posais la question, combien de temps? Et on me répondait, tu sais Marie, on ne sait pas trop. Voilà, ils n'osaient pas trop me dire. Donc j'étais alitée, je suis restée alitée, je crois, 2 mois. Tant que je comprenne aussi, tant que mon quotidien, et puis on commence à me montrer les fauteuils roulants, à m'expliquer. J'ai des professeurs qui viennent dans ma chambre, qui m'expliquent qu'il faut que je reprenne mes études, et tout ça, ça prend du temps à assimiler. Même si je suis dans un cocon avec des gens bienveillants, et le personnel hospitalier était super, voilà, ça prend du temps. Effectivement, je perds l'usage de mes jambes. Et puis, j'apprends à commencer à manœuvrer un fauteuil roulant, quoi. Avec toutes les grandes rigolades qu'il peut y avoir aussi quand il faut descendre des escaliers. J'ai quand même des très très bons moments partagés. Et voilà, et puis effectivement, reprendre les études, là je fais des belles rencontres, donc peu importe, j'apprends, j'ouvre les bouquins, j'ai du temps. Hein. Et voilà, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
Et tu disais que tu avais déjà entendu parler de cette approche de programmation mentale, tout ça, c'est ça?
Oui, la préparation mentale, je l'avais déjà expérimentée à cheval. Ça m'avait... Préparation mentale, en fait, vous êtes focus sur votre concentration, vous gérez votre stress, et ça fait la différence. Dans le milieu sportif, c'est largement utilisé, et c'est très très bien. Et je m'en suis servie, en fait, toute seule, en me disant, bah là, je suis dans mon lit, je ne sais pas combien de temps je vais rester alitée, je vais faire une visualisation pour plus tard. Donc je me visualisais en train de reprendre la marche, en fait, et remonter à cheval. C'est ça qui m'a tenue.
D'accord.
Donc grâce à ça, j'ai pu tenir et garder le moral. Véritablement.
Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ton centre de soins?
Centre de soins, Irémia. Irémia, ça veut dire sérénité en grec ancien. C'est un endroit pluridisciplinaire. C'est-à-dire que quand on ne va pas bien, on se dit, bah, je vais me faire aider, je vais aller voir quelqu'un. Mais on ne sait pas trop vers qui aller. Est-ce qu'on va voir son médecin de famille? Est-ce qu'on va aller voir un psychologue? Est-ce qu'on va voir un sophrologue, un hypno? On ne sait pas trop. irait bien, c'est un endroit où vous avez toutes ces méthodes au même endroit pour un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que chaque séance va être dédiée à votre vie et à vos objectifs. Et ça, moi, je ne l'avais pas trouvé. C'est pour ça que je l'ai créé.
D'accord. Combien de temps tu mets pour te rétablir ?
Oh, longtemps.
Longtemps ?
Longtemps. Je pense que je suis restée... Alors, exactement, je ne me souviens pas. Hein. Mais j'ai retrouvé la marche progressivement. J'ai dû rester sans mes jambes, je crois, 1 an et demi.
Et tu avais quel âge quand c'était arrivé ?
J'avais 20 ans.
D'accord. Donc, le déclic quant au fait d'ouvrir ton centre de soins, ça n'a pas été tout de suite. Ça a été,
non, quand j'ai retrouvé mes jambes, j'avais repris mes études. Je ne vous dis pas que quand j'ai remis les chaussures à mon pied, je pouvais... décrocher la lune. Donc j'étais boostée en me disant là je vais alors pas remonter à cheval tout de suite, même si c'était toujours dans mon esprit.
D'accord.
Le but c'était de remonter à cheval, mais il fallait je me suis bien rendu compte qu'il fallait que je trouve un diplôme et un vrai travail entre guillemets au cas où je ne puisse pas trouver l'intégralité de mes compétences. Donc j'ai commencé à ouvrir un magasin optique de nuit parce que j'étais diplômée en optique à l'hôpital.
Donc, d'accord.
C'est-à-dire en compte d'un professeur de maths et d'optique qui s'appelait Monsieur Lacroix. C'est un homme extraordinaire qui m'a fait travailler à l'hôpital dans mes journées où j'étais alitée et en fauteuil. Donc j'ai commencé par en ouvrir un et puis deux. C'était dans la région lyonnaise, ça a très très bien fonctionné. Et les gens me disaient, mais Marie, mais t'es pas stressée, comment tu fais? T'es très dynamique, tu oses de l'audace. Et je leur disais, mais moi j'ai rien à perdre en fait, j'ai tout à gagner. Et ce mental-là de gagnant, mais comme tous les grands sportifs peuvent avoir, c'était grâce à la préparation mentale que j'ai commencé à appliquer au milieu professionnel.
D'accord.
Voilà. Et les gens sont commencés à revenir vers moi dans le monde équestre en me disant bah, tiens, est-ce que tu peux me coacher un petit peu? Regarde ton parcours, c'est chouette. Des dirigeants d'entreprise aussi. Et là, j'ai commencé moi à continuer de travailler sur moi en contactant soit des conférenciers, des thérapeutes, des psychologues, beaucoup.
Et donc, à partir de quand est-ce que tu as eu le déclic d'ouvrir ton
centre? Le centre de soins, je l'ai ouvert au Pays Basque il y a une dizaine d'années maintenant. J'avais une maison d'hôte et je recevais les gens qui venaient sur 3-4 nuitées. On prenait le temps de discuter, d'échanger en profondeur pendant des repas. Et ils me posaient tous la même question de Marie, mais voilà, comment vous pouvez nous aider? Donc j'essayais de leur parler, j'ai commencé à organiser des week-ends dans cette maison d'hôte de développement. Donc je faisais venir des prestataires. Et puis c'est là que l'idée d'Irémia est arrivée en me disant, mais voilà, c'est ça qu'il faut en fait. C'est avoir plusieurs méthodes au même endroit pour pouvoir répondre à la demande des gens.
D'accord.
Et Irémia est née de là.
Et c'était en quelle année ?
Oh, je ne me souviens plus exactement. Une petite dizaine d'années.
Te voici en Dordogne depuis... c'était quoi, 2024 ?
Ouais, on a ouvert exactement en février 2024 ici. Où le centre a été transféré en Dordogne.
Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime le plus dans ton travail et dans l'accompagnement des personnes que tu reçois ?
Ce qui m'anime le plus, c'est d'accompagner les gens à ne plus subir leur vie. Ça, c'est très important pour moi. Beaucoup arrivent épuisés, submergés, avec le sentiment de tenir plutôt que de vivre. Et ça me motive beaucoup. Les accompagner vers plus de clarté, d'apaisement, ça apporte tout son sens à mon métier.
Qu'est-ce qui, selon toi, t'a amené vers l'hypnose, la sophrologie et la programmation neurolinguistique ? Tu disais que c'était important, le fait de pouvoir retrouver... dans un même lieu, plusieurs types de méthodes d'accompagnement. Mais pourquoi ces trois-ci ?
D'abord, on va plus vite. Moi, je fonctionne en thérapie brève. Sur un objectif, à peu près, c'est 2 mois et demi, 3 mois maximum.
D'accord.
Et ces trois méthodes, elles sont complémentaires. La sophrologie, l'hypnose, la PNL, elles se sont vraiment imposées à moi. La sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle. L'hypnose, c'est plus pour traiter les blocages un peu plus loin. Et la PNL, donc la programmation neurolinguistique, c'est vous apporter un autre mode de pensée.
Et aujourd'hui, par exemple, au niveau de ton centre, tu en as une qui est plus pratiquée qu'une autre ou c'est assez équilibré ?
Non, moi j'aime bien mettre un petit peu tout. Je commence souvent par la sophrologie parce que c'est la plus douce pour mettre en confiance, parce que c'est très courageux de passer la porte d'un centre de soins, on ne sait pas trop quelle sauce on va être mangé. Et très rapidement, j'explique et on va... L'hypnose, ce n'est pas forcément obligatoire. Hein. On n'a pas forcément tous des traumas ou des blocages. Hein.
Souvent, avec l'hypnothérapie, on peut faire des amalgames. Par exemple, on a tendance à croire que l'hypnose, c'est un petit peu ce que fait Mesmer à la télévision. Pour quelqu'un qui ne connaît pas cette pratique, que pourrais-tu dire de l'hypnose de façon générale et surtout ce que l'hypnose n'est pas ?
Oui. Alors, en fait, l'hypnose, on la connaît tous au quotidien. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. C'est-à-dire que si vous prenez votre voiture et que vous répondez au téléphone, Vous pouvez parfois être surpris d'être déjà arrivé à votre destination sans vous en être rendu compte, comme un pilote automatique. C'est un état d'hypnose.
D'accord.
Quand vous serrez la main à quelqu'un automatiquement en pensant à autre chose, c'est un état de conscience modifié. Voilà. L'hypnose, on ne pourra pas vous faire faire quelque chose sans votre avis, sans votre accord. C'est très sécure, l'hypnose. Il n'y a pas de perte de contrôle. Vous restez complètement conscient et actrice de votre changement. L'hypnose de Mesmer, elle est très rigolote. Alors, je la pratique aussi. Elle est un petit peu plus punchy. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elle elle est très drôle. Néanmoins, c'est vrai qu'il pratique ce qu'on appelle l'hypnose thérapeutique, qui est très efficace, qu'on va utiliser notamment dans les centres hospitaliers. On peut, voilà.
Pour la gestion de la douleur, par exemple ?
Exactement. Oui. Notamment pour la gestion de la douleur. C'est aussi utilisé en cabinet dentaire. Elle fonctionne très bien. Lui, Mesmer, il en a fait un show. C'est drôle. Maintenant, ça discrédite un petit peu, peut-être, cette pratique.
Tu dirais que tout le monde est réceptif à l'hypnose ou...
Ouais. Et oui.
D'accord.
Oui. J'entends souvent les gens me disent « Mais non, ça ne marchera pas sur moi. » Alors, bien évidemment, si vous ne voulez pas... D'abord, je ne vais pas insister parce que par respect, bien évidemment, mais ça fonctionne sur tout le monde.
D'accord. Oui, mais je fais partie de ces personnes qui ont cet a priori.
Oui.
C'est que j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, donc il est vrai que parfois, je doute du fait d'être réceptive à cette méthode. On confond parfois la sophrologie, la méditation et la relaxation. Qu'est-ce qui distingue vraiment la sophrologie selon toi ?
Alors, la sophrologie, c'est vraiment une thérapie. Elle a été inventée dans les années 60 par un neuropsychiatre. Donc, elle est éprouvée, prouvée scientifiquement. C'est vraiment une méthode médicale.
D'accord.
Par rapport à la relaxation, même s'il y a effectivement de la relaxation et du yoga dans la sophrologie. C'est une méthode qui est très complète. Sophrologie, ça veut dire harmonisation de la conscience. Donc, il y a plein d'outils. Il y a la respiration, il y a les mouvements, il y a la visualisation, il y a l'écoute du corps dans la sophrologie.
D'accord. Et donc, on retrouve aussi, à travers la sophrologie, des similitudes avec la...
Avec le yoga et la respiration, oui.
D'accord.
Oui. Donc, il y a un petit peu de méditation, effectivement. Il s'est inspiré de pas mal de choses. C'était monsieur Alfonso Caicedo qui l'a créé.
Qui était italien ? Non, pas du tout.
Alors, c'est une bonne question.
Non, je pense pas, en plus.
Non, je pense pas.
Non.
Mais du Sud, très certainement.
La programmation neurolinguistique, ça peut paraître un petit peu abstrait, j'imagine, pour le grand public. Comment expliques-tu, toi, concrètement, à quoi elle sert, et notamment dans la gestion des émotions ?
Et oui, la PNL, on parle souvent de PNL, elle est très concrète. Hein. Elle va proposer des outils comme le recadrage, la visualisation, encore une fois, et des ancrages émotionnels ou le travail sur les croyances limitantes. Elle va aider à comprendre pourquoi les émotions, elles se déclenchent et comment on va la transformer, cette émotion, pour en faire quelque chose et retrouver la stabilité et la confiance. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment très claire. La PNL, c'est aussi, pour vous donner un exemple, vous allez faire une épreuve sportive ou un entretien très très important, vous êtes préparé, la technique vous l'avez, et vous allez vous dire « cette fois je ne vais pas échouer ». Là vous avez tout faux, parce que votre cerveau il va retenir « je » et « échouer ».
Ah d'accord.
La PNL, ça, vous allez vous dire « je vais réussir ».
D'accord, ok.
Là vous envoyez un autre message, c'est un autre courant de pensée, beaucoup plus positif, et on va vers la réussite.
L'importance des mots, du coup.
Exactement, c'est primordial.
Et alors, toi, dans ton centre de soins, quels sont les symptômes que tu vois le plus souvent chez les personnes qui viennent te voir pour du stress ou une surcharge émotionnelle ? Comment ça transparaît chez eux au niveau symptomatique ?
Très souvent, c'est une fatigue intense, générale, autant physique que mentale. Ils sont épuisés. Il y a des troubles du sommeil très fréquents, des réveils nocturnes, des cogitations, des tensions corporelles, des douleurs, une charge mentale très présente, et puis des ruminations, des cogitations, sensation de perte de repère, et puis souvent les gens qui me disent « je ne me reconnais plus ».
Quelles sont les idées reçues ou les fausses croyances que tu entends le plus souvent à propos des émotions, toi, au quotidien ?
Souvent, moi, j'entends que les émotions, c'est un signe de faiblesse. Hein. On n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de montrer ses émotions.
Mm-hmm.
Mais ça, c'est la culture ou c'est la société qui nous l'impose. En réalité, nos émotions, elles sont des messages qu'on devrait écouter. Donc, de toute façon, elles se font entendre. Hein. C'est des indicateurs qui sont très précieux. Le problème, il n'est pas de ressentir, mais de ne pas savoir quoi faire de ce qu'on ressent.
Est-ce que tu dirais, par exemple, que les femmes acceptent peut-être plus facilement les émotions qu'elles ressentent ou acceptent de les verbaliser plus facilement par rapport aux hommes, ou c'est... Est-ce que les hommes font preuve de plus de pudeur par rapport à leurs émotions?
Non, j'ai pas l'impression. Je reçois autant d'hommes que de femmes, paradoxalement. On pourrait penser que les femmes sont plus, parce qu'en plus, une femme, elle a quand même plusieurs journées dans une journée. Mm-hmm. On est maman, on est femme, on est épouse. Et cette charge mentale, je l'ai partout maintenant. Et de toute façon, on a plutôt tendance à ne pas s'écouter, à rester très très productif. On fait le dos rond, on y va, jusqu'à l'épuisement.
D'accord. Et ça, de façon finalement assez équilibrée entre les gens.
Oui. Oui.
Qu'est-ce qui génère autant de stress aujourd'hui, d'après les passions que tu as? Est-ce que tu sens qu'il y a une différence par rapport à il y a quelques années sur les origines du stress d'aujourd'hui?
On est beaucoup plus sollicité par les mails, on est toujours hyper connecté, donc ça crée une fatigue. On a moins de temps pour soi. Et puis il y a une mentalité, encore une fois, de productivité. On vit beaucoup dans l'attente. On va attendre le week-end.
Oui.
Un vendredi soir pour faire la fête et retrouver des amis. On va attendre les vacances. On va se dire chouette, j'ai bientôt mes vacances. Ce qui peut provoquer le spleen du dimanche soir. Et puis du coup, le reste du temps, on va travailler, on va faire des efforts, on va prendre sur soi. Et puis à force, on s'épuise. Alors que la clé, selon moi, c'est d'apprendre à vivre sereinement ses journées. C'est à partir de là qu'on ne va plus subir sa vie.
Est-ce que tu dirais, parce que par exemple, c'est quelque chose que je peux être amenée à ressentir, un sentiment de culpabilité de ne pas avoir fait l'intégralité de ma to-do list du jour, alors qu'au lieu d'être contente d'avoir fait certaines choses que je devais faire, est-ce que tu dirais que ça, c'est aussi un petit peu important?
Alors, il y a des habitudes. On ne peut pas être parfaite. Ça, il faut l'accepter. Savoir dire non, c'est quelque chose qui est difficile. De se dire non, là, je ne peux pas, ça va rester pour demain. Moi, j'aime à dire que les petites tâches, c'est-à-dire que celles qui font moins de 2 minutes, elles doivent être faites au quotidien. Les autres, effectivement, il va falloir prioriser. Et si vous n'avez pas le temps de le faire, il n'y a pas un mort d'homme en soi. Hein.
C'est un bon conseil. Moins de 2 minutes, on ne procrastine pas.
Exactement.
Est-ce que tu dirais que le contexte économique et géopolitique actuel a un impact sur les personnes que tu accompagnes?
Très clairement.
Oui.
Très clairement, il va générer, comme pour tout le monde, beaucoup d'insécurité intérieure. Donc là, on sort de notre zone de confort pour beaucoup. Des peurs diffuses, une perte de repères, même chez des personnes qui semblaient stables auparavant.
D'accord.
Ça, c'est une posture qui est très inconfortable pour nous. On était quand même privilégiés.
Oui. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas habitués, nous.
Exactement. Donc cette crise économique, on savait qu'elle allait arriver. Hein. On est en plein dedans et on ne sait pas combien de temps elle va durer. Et le « on ne sait pas », c'est très problématique pour nous.
Oui. À quel moment tu te dis qu'un patient commence vraiment à aller mieux ou à progresser dans sa gestion émotionnelle?
Quand il a plus de souplesse émotionnelle, c'est-à-dire que quand il ne réagit plus uniquement par automatisme et qu'il retrouve une capacité de recul, de choix et plus d'écoute de lui-même.
Pour toi, qu'est-ce que c'est le bien-être d'une personne? D'où vient la confiance en soi? Comment on la construit? Et est-ce que confiance en soi et bien-être vont forcément ensemble?
Ah, là, c'est des bonnes questions, Caroline.
on va les répondre une par une.
Alors, est-ce que le bien-être, c'est quoi le bien-être? Le bien-être, c'est pas être bien tout le temps. Parce qu'on n'a pas des journées hyper lisses et on n'a pas des journées parfaites. Le bien-être, c'est être suffisamment stable intérieurement pour traverser ce que la vie propose sans se perdre. C'est-à-dire que, ok, il m'arrive des couacs, qu'est-ce que j'en fais en fait? Comment je vais les dépasser ces couacs? C'est pas grave en soi. J'aurai pas de pic de stress, je vais pas les subir.
D'accord.
Je vais les dépasser. D'où vient la confiance en soi? La confiance en soi, elle va venir de la sécurité intérieure, de la connaissance de soi et de la cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire ça, si je le pense, je le fais. C'est pas grave si je me trompe. J'avais confiance en moi. Donc si je me trompe, je me dis, mince, pourquoi je me suis trompée? Pour des problèmes de compétences, peu importe. Ça, c'est la confiance. Elle va se construire progressivement par l'expérience et l'écoute de soi. La confiance en soi et le bien-être, ils ne sont pas toujours ensemble. Souvent, oui, mais on peut très bien aller bien émotionnellement sans être encore confiant.
D'accord.
Et inversement, c'est encore deux choses séparer. L'accompagnement va permettre justement de réunir les deux.
Disons que la capacité à se sentir bien va être optimisée par la confiance en soi, mais ça peut quand même être dissocié dans la vie.
Oui. Exactement.
Et puis de toute façon, rien n'est vraiment permanent au quotidien, c'est-à-dire qu'on peut être confiant à un moment et puis l'être un peu moins. Pour autant, ce qui est rassurant, c'est qu'on peut quand même continuer à se sentir bien.
Exactement. Et on n'a pas parlé de l'estime de soi, mais ça sera
un autre sujet. On a souvent tendance à pas s'écouter, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et à repousser les signaux, ce qui peut mener au surmenage, au burn-out. On dit aussi que le psychologique est aussi important que le physique, voire parfois à l'origine des maladies. À partir de quand, selon toi, est-ce qu'il faudrait consulter? Et est-ce qu'on doit attendre d'aller mal, ou est-ce qu'on peut agir en prévention de manière plus régulière?
Et c'est une bonne question. Idéalement, c'est bien de consulter avant d'aller mal. Là aussi, dans notre culture, c'est pas nos habitudes.
Oui.
Souvent, on va voir le médecin quand on a déjà trop de symptômes.
Oui.
C'est un petit peu trop tard. On n'attend pas d'être en burn-out pour s'écouter. Ceux qui sont en burn-out, ce sont des personnes qui sont très exigeantes envers eux-mêmes et envers les autres. Donc elles ne s'écoutent pas. Et souvent, si on se répare, mais ça prend du temps. Le psychologique, il est tout aussi important que le physique. La prévention, elle est essentielle. Vous allez bien à la salle de sport pour prendre soin de votre corps.
Mm-hmm.
Et ben, prenez soin en développement personnel ou en thérapie pour prendre soin de votre psychologique. C'est important.
Et je pense que même c'est dans les pays plutôt asiatiques où on a tendance à faire, avec la médecine douce, beaucoup
Exactement.
Plus de prévention.
Mais oui, ce n'est que prévention.
Oui.
Et c'est un automatisme en fait.
Le prendre soin de soi au quotidien. Quoi.
Exactement. Et s'écouter. Souvent les gens posent la question, c'est quand est-ce qu'on va mal finalement? Parce que les journées, elles oscillent entre des choses positives et des choses un petit peu bad. Moi j'aime à dire qu'une émotion, par exemple, quand elle s'installe plus de 48 heures, il faut consulter.
Est-ce que tu observes, toi, des profils types de patients avec des problématiques qui reviennent souvent?
Alors, j'ai beaucoup de femmes en surcharge mentale, on l'avait évoqué tout à l'heure. Alors, d'hommes aussi, hein, mais c'est vrai que j'ai pas mal de nanas. Des personnes hypersensibles, de plus en plus, parce que la société n'est pas faite pour ce genre de personnes. Elles ont du mal à trouver leur place. J'ai beaucoup d'adolescents aussi en difficulté émotionnelle depuis le Covid. Nos jeunes enfants ont aussi beaucoup de pression. Hein. On ne s'en rend pas toujours compte. Hein.
Oui.
Ils se font beaucoup de soucis sur l'avenir. Et puis beaucoup de personnes en transition de vie, que ce soit une reconversion professionnelle, des séparations, des deuils.
Est-ce que toi, tu pourrais nous partager une histoire d'une transformation qui t'a particulièrement marquée?
Alors, il y en a beaucoup. Les personnes qui me marquent, c'est des personnes qui arrivent éteintes et qui repartent reconnectées à leur élan de vie. C'est ça qui me touche. Je pense notamment à un monsieur qui était venu au cabinet, une quarantaine d'années, un monochrome de gris, ce monsieur. Il avait le teint blafard, hein, des vêtements gris, voûtés. Il s'installe, il me dit « Marie, de toute façon, ma vie, je n'ai fait que rater, j'ai un mauvais karma, c'est comme ça. » Et il venait parce que voilà, il voulait changer de travail, donc j'allais faire une préparation mentale pour booster sa motivation. Son objectif, c'était ça. Et puis, de séance en séance, j'ai un petit peu élargi le spectre de son objectif pour travailler sur la confiance en lui, etc. Parce que sa vie personnelle était le chaos, enfin, tout, rien n'allait. Et finalement, je l'ai vu se transformer. D'abord, se tenir beaucoup plus droit, un petit peu gonfler le torse, retrouver un teint plus lumineux. Je lui ai fait la remarque un jour qu'il avait quelques rides d'expression comme un rictus qu'il n'avait pas auparavant. Et puis sa vie s'est commencée à changer. Il a commencé à s'ouvrir aux autres, donc faire de belles rencontres. Il a fait sa reconversion, il s'est même mis à son compte. Et tout fonctionne.
Ah, génial. Voilà. Et est-ce que tu dirais justement que, pour rebondir sur ce que tu dis, que l'énergie qui émane de nous a un impact sur les choses qui nous arrivent? C'est-à-dire plus nous sommes optimistes et avenants, souriants et face à la vie, et plus, disons, les rencontres que nous ferons seront agréables, et inversement, à n'attirer que des choses un petit peu négatives lorsqu'on boit du noir, par exemple.
Ah, mais alors complètement, et c'est même prouvé scientifiquement.
D'accord.
Ta question, elle est très, très judicieuse. On dit le positif attire le positif, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que quand on pense positif, on va créer des chemins neuronaux positifs. On va avoir des pensées positives, donc votre cerveau il va aller chercher ce qui se passe de chouette dans votre vie. À l'inverse, quand vous broyez du noir, ça va être exactement la même chose. On va être dans un cercle qui va vous tirer vers le bas et vous ne verrez que du noir. Donc, si vous pensez positif, vous allez aussi attirer, vibrer haut, être beaucoup plus lumineux et vous allez attirer des gens qui sont comme vous.
Alors, ça aussi, c'est limite parce que j'essaie de moi de m'appliquer ça quand je vais jouer au loto.
Si seulement.
Je ne dois pas vibrer suffisamment haut encore.
Alors, c'est pas magique, hein, effectivement.
Et alors, si tu devais proposer un exercice simple que voilà, les auditeurs pourraient faire seuls pour gérer un pic de stress, lequel choisirais-tu?
Alors, il y en a un qui fonctionne très très bien, c'est la respiration consciente. Il est assez connu, il est topissime. Moi, je vous invite même à le montrer aux enfants, pour ceux qui en ont. Ça s'appelle le carré. Quand vous avez un pic de stress, ça veut dire que vous avez une émotion qui est trop haute. Vous la subissez. Il faut la faire partir. Donc le carré, par exemple, vous prenez une inspiration de 4. 1, 2, 3, 4. Vous bloquez 1, ça fait un côté du carré. Et vous expirez 4. 1, 2, 3, 4. Vous bloquez 1 et vous redescendez. 1, 2, 3, 4. Et ça fait un carré.
D'accord.
Ça, il faut le faire à peu près 3 minutes. Pourquoi 3 minutes? C'est le temps en fait que le corps, donc la respiration, envoie un message à votre cerveau. Donc là, c'est le corps qui parle à votre mental et qui dit « non, calme-toi ». Là, c'est régulier. On s'apaise. Donc, tout va bien. Et d'accord. Là, vous avez toutes les émotions qui sont sur la même ligne. Vous êtes équilibré. Si vraiment vous êtes un pic de stress très aigu ou une crise d'angoisse, ça peut arriver à certains. C'est assez impressionnant. Donc là, vous perdez pratiquement vos moyens. Vous faites une expiration plus longue. Un exemple, vous inspirez 4 secondes. Vous bloquez 1 et vous allez expirer 6. On l'appelle évidemment le rectangle, parce que vous avez deux côtés plus longs. Et là, ça va tout de suite faire descendre l'émotion qui est la plus haute. Pareil, il faut le faire en moins 3 minutes. Plus vous vous entraînez, plus vous allez gagner du temps et plus votre cerveau et votre mental va reconnaître l'exercice. Donc vous allez ressentir un apaisement beaucoup plus rapidement.
Et alors, à contrario, quand on est submergé émotionnellement, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Qu'est-ce qu'on a tendance à faire de mauvais?
Eh bien, on la bloque. On ne l'écoute pas, en fait. Une émotion, c'est naturel. Une émotion, elle nous traverse pour nous envoyer un message. Il y a toujours une bonne raison à l'émotion, que ce soit une colère, une tristesse, un mal-être. Elle a une raison, une cause. Si on ne l'écoute pas, elle va s'amplifier. Vous ressentez un mal-être. Par exemple, j'ai mal au ventre, cet entretien, ça ne se passe pas bien du tout, je ne suis pas bien. Ben pourquoi je ne suis pas bien? Est-ce que je l'ai mal préparé? Pourquoi je l'ai mal préparé? Posez-vous la question, mais allez vraiment au fond des choses. Si vous dites, ok, là j'ai mal au ventre, j'entends, l'émotion elle va passer, elle va s'atténuer tout de suite. Si vous ne l'entendez pas, elle va s'amplifier.
Oui, il ne faut pas rester bloqué dessus.
Exactement.
Ma question, elle est vraiment... Pour toi, quand on accompagne au quotidien des personnes en difficulté, comment fait-on pour ne pas se laisser envahir? Et est-ce que tu as des pratiques que tu mets en place pour préserver?
Ouais, alors d'abord, moi je travaille sur moi depuis pratiquement 30 ans. Et j'ai des rituels, j'ai des habitudes au quotidien. J'ai toujours un temps de respiration. J'essaie d'avoir une hygiène de vie. Je fais du sport, une alimentation que je surveille. Tout ça, ça compte énormément. Et puis, je suis accompagnée par d'autres thérapeutes, des formations très régulières aussi. J'ai besoin de partager. Je travaille avec des méthodes qui sont récentes, PNL et neurosciences, quelques années, sophrologie aussi. Donc, c'est toujours en perpétuel mouvement. Donc, c'est important pour moi d'être au fait des dernières nouveautés ou de se dire, bah tiens, tel protocole, je l'ai fait comme ça, qu'en pensent mes confrères, d'échanger, prendre le temps, poser des mots, des fois peut-être se dire... J'aurais peut-être pu l'appréhender autrement. Tout est l'intérêt de mon métier, c'est ça.
Et alors, si tu pouvais accompagner n'importe quelle personnalité, vivante ou non, qui choisirais-tu et pourquoi?
Alors, c'est une question qui m'a donné du fil à retordre, parce que c'est une belle question. Ma première pensée, ça a été, parce que j'accompagne beaucoup dans le domaine du sport, des grands sportifs, et j'adorerais accompagner un sportif handisport, handicapé. Ça, je trouve ça, pour moi, ça serait chouette. Et puis, j'ai noté Simone Veil. Alors, même si elle n'est plus là aujourd'hui, son parcours reste une immense force et de conscience. Je m'en inspire beaucoup. Puis au quotidien, moi, c'est les personnes qui viennent au cabinet que j'accompagne, qui m'inspirent le plus. véritablement.
C'est ce que j'allais te demander justement en rebondissant sur tes propos. Est-ce que toi aussi, oui, tu t'inspires et tu prends note parfois de certaines choses qui ressortent des entretiens que tu as avec tes patients?
Ah oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Moi, je suis très admirative, profondément admirative des gens que je rencontre. Je fais des très belles rencontres, je rencontre des très belles personnes. J'ai beaucoup de chance. J'en ai conscience.
Est-ce qu'il y a un mythe autour de ton métier que tu aimerais déconstruire ou un cliché qui te fait sourire, qu'on a tendance à te dire?
Alors, on l'a évoqué tout à l'heure sur l'hypnose, ça marche pas sur moi. Ça me fait beaucoup sourire en coin de l'œil. Hein. D'ailleurs, je t'invite, Carolina, à essayer avec moi. Donc, non, l'hypnose, encore une fois, ça fonctionne sur tout le monde. Ça prendra plus de temps, certainement, mais ça fonctionne sur tout le monde. Et puis, au-delà de ça, sur le thérapeute, dans le sens large, c'est l'idée que l'on répare les gens. Moi, je répare personne. Moi, j'accompagne. Chacun fait son propre chemin. J'aime à dire que je les révèle. En tout cas, que mon travail, mes méthodes, les révèlent.
Est-ce qu'il y a une personne, une femme ou un homme qui t'inspire particulièrement dans ton parcours?
Alors, oui, j'ai notamment pensé à Bernard Satché, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui est un cavalier cascadeur.
D'accord.
Il a fait un livre, peut-être l'avez-vous lu, qui s'appelle « Mes quatre jambes ». Et il y a eu un film, il y a quelques années, avec Cécile de France et Albert Dupontel, qui s'appelle « En équilibre », qui parle de sa vie.
D'accord.
C'est Bernard, quelqu'un qui a un caractère assez fort, très très belle énergie. Et lui aussi, il a perdu ses jambes et il est remonté à cheval. Donc il a adapté en fait sa technique, il continue à travailler et je m'en suis beaucoup inspirée. Bien évidemment.
En termes de force, de résilience.
Exactement, mais il y en a partout, au quotidien, dès qu'on s'intéresse aux gens et à la vie des gens, on a tous des épreuves. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la transformer. Je dis souvent qu'il y a une différence entre douleur et souffrance. On peut, la douleur, on a mal, mais on peut choisir de ne pas en souffrir.
Ah, c'est très beau. Eh bien, Marie, merci beaucoup.
Merci pour, infiniment, Carolina.
Le temps que tu m'as accordé et puis pour cet échange très inspirant et relaxant, parce que je trouve que l'énergie qui émane de toi est vraiment très apaisante. J'apprécie beaucoup. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Marie, si on veut faire appel à toi?
Ah ben alors, sur mon site internet, et puis à Chaussons Chancelade, avec mon téléphone, n'hésitez pas à me contacter.
Eh bien, je mettrai le lien de toute
C'est
façon.
C'est très gentil à toi. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
C'était Carolina sur Radio Libre en Périgord.